Salut à toutes et à tous, je suis Toufik Edna et bienvenue pour cette deuxième émission d'Évasion des mots sur CELAB 88.4 FM. Aujourd'hui, préparez-vous pour une heure de découverte littéraire, d'émotions et de partage autour de trois œuvres fascinantes. Nous avons à la technique Hussein Zerar et à la rédaction Lilia. Prenez place, on commence tout de suite. Pour débuter cette émission, nous allons explorer le dernier livre de Yasmina Khadra, Cœur d'amande, ce titre qui évoque la célèbre pâtisserie algérienne Qalb Ellouz. Au-delà de cette référence gourmande, Yasmina Khadra nous entraîne dans une histoire profonde où les souvenirs, les traditions et les liens familiaux se mêlent, offrant une réflexion émotive sur l'identité et les racines. Ensuite, nous plongerons dans Passion crépusculaire, un recueil de poésie signé Kamel Bouneb. Ce livre puissant rassemble des poèmes intenses qui abordent des thèmes tels que l'amour, l'exil et la quête de soi. Avec une voix unique, Kamel Bouneb nous fait voyager dans un monde d'émotions brutes et de vérités universelles qui ne laissent personne indifférent. Et pour clore cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir Stéphane Contero pour une interview autour de son ouvrage Picoroman, entre introspection et aventure littéraire. Ce livre explore les pensées d'un personnage en quête de sens, avec une écriture qui nous invite dans l'univers créatif et unique de l'auteur. Une conversation qui promet d'éclairer les inspirations et le parcours littéraire de Stéphane Contero. Prenez un moment pour vous détendre, cette émission Évasion des mots commence maintenant. Que le bal des hypocrites bat son plein. Chaque pas de danse, un mensonge. Chaque sourire, une trahison. Regardez-les, ces marionnettes costumées, se pavanant dans leur habit de vertu. Leurs paroles mielleuses suintent entre les dents comme du venin. Ils se gorgent d'autosatisfaction. Bâtisseurs de châteaux en papier, prétendant au tronc de l'authenticité, alors qu'ils ne sont que les rois de l'artifice. L'air sapicie de cette comédie. Chaque mot, chaque geste, une parade grotesque de l'ego. Et nous, spectateurs de ce théâtre de l'absurde, sommes censés applaudir, ravaler nos vomissements devant cette exhibition narcissique. Mais voilà, le rideau finit toujours par tomber, et sous les projecteurs impitoyables de la vérité, leur maquillage coule, révélant la laideur sous la surface. Ils s'imaginent navigateurs de l'âme humaine, mais ne sont que des naufragés de leur propre superficialité. La véritable tragédie n'est pas leur déchéance, mais notre silence, notre complicité tacite dans ce jeu morose. Assez, brisant le miroir de leurs illusions, et que chacun se voit tel qu'il est, un squelette habillé de vanité dansant au bord de l'abîme. Telles sont l'errance d'un écrivain.
Une pensée surgit comme un spectre errant dans la brume. Arrête, qu'est-ce que l'écriture, sinon une tentative désespérée de saisir l'insaisissable. Je m'égare dans les méandres de ma propre conscience. Un labyrinthe sans fin, où chaque mot devient une clé rouillée, ouvrant des portes vers des abîmes inexplorés. L'écriture est une danse macabre avec la réalité. Arrête, chaque phrase, un coup de poignard dans l'ordre établi. Les mots se dérobent sous mes doigts, comme des poissons fuyant dans un océan de doute. Pourquoi écrire pour se libérer des chaînes invisibles, pour crier à l'infini sans écho? Chaque trait de plume devient un acte de rébellion, arrêt, une résistance contre l'absurde qui nous entoure. Tout doux dérangeant, je scrute mes pensées, arrêt. Il y a des visages comme des monstres familiers. Derrière chaque phrase se cache un reflet déformé, un miroir brisé de mon âme, révélant les cicatrices que je m'efforce d'oublier. Arrêt, inspirant, troublé. Et pourtant, c'est là que réside la beauté du désespoir. Une connexion fragile entre les êtres, infinité du reliant chaque créateur à son public. À travers mes mots, je crie, je pleure, je partage ma folie avec ceux qui osent écouter. Arrêt, intense, 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 intense. L'écriture devient une exploration des abîmes, une plongée dans l'inconnu, où la raison vacille et où la vérité se dérobe. Qui suis-je si ce n'est un faiseur de rêves, un alchimiste cherchant à transformer l'ordinaire en extraordinaire? Arrêt. Chaque mot que je couche sur le papier est un acte de foi, une déclaration d'existence dans un monde qui préfère l'oubli. Alors que mes pensées se perdent, arrêt. Je m'accroche à ce fil fragile, à cette étoile vacillante. Pourtant, car écrire c'est vivre, c'est embrasser la folie et danser avec l'absurde. Nous sommes tous des détraqués, des rêveurs, et c'est dans cette folie que réside notre humanité. À nous de créer, de questionner et de célébrer cette quête infinie de sens. Elles sont errances d'un écrivain.
Mes chers amis, comme vous le savez, aujourd'hui je vous parle du dernier ouvrage de Yasmina Khadra, Cœur d'amande. Ce roman plein de tendresse nous plonge dans la vie de Nestor, un homme courageux et positif, élevé par sa grand-mère dans un quartier modeste de Montmartre. L'une des forces de ce livre, c'est sa capacité à décrire la beauté des moments simples. Khadra nous rappelle que l'amour et la résilience peuvent triompher, même face aux épreuves les plus dures. Je vais vous lire un extrait inspiré de l'ambiance du livre, pour vous immerger dans cet univers paisible, fait de petites attentions et de moments partagés. Il n'y a pas besoin de grandes actions ni de drames pour que l'émotion soit présente. Laissez-vous porter par cette scène. Dans leur petit appartement niché au cœur de Montmartre, Nestor s'activait doucement, préparant le thé que sa grand-mère aimait tant. La vieille femme était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, où le soleil de l'après-midi se glissait à travers les rideaux. Elle regardait dehors et son esprit semblait ailleurs, perdu dans les souvenirs d'une autre époque. Nestor, lui, observait les passants dans la rue en contrebas. Les rires des enfants, les discussions des commerçants du quartier, tout cela formait une douce mélodie de la vie quotidienne. Ce quartier était le refuge, un moment à part, où chacun avait sa place malgré les difficultés. La maladie d'Alzheimer de sa grand-mère ne leur avait pas volé ces moments de tranquillité. Ils étaient là, ensemble, dans cette routine qui leur appartenait. Chaque geste, chaque regard, même les silences entre eux faisaient partie de leur lien. Nestor n'avait jamais besoin de mots forts pour comprendre combien elle comptait pour lui. Il lui devait tout. Dehors, le monde continuait de tourner. Mais pour eux, le temps semblait suspendu. Entre un présent fait de petites attentions et un passé qui s'effaçait peu à peu dans l'esprit de sa grand-mère.
Une portion de monstres en chair désertique, que le sophata qui saute, une carré sucre de sa version de nous. Feuilles qui dansent, éparpillées dans le vent.
Pour ceux qui ne connaissent pas Yasmina Khadra, c'est un écrivain algérien de renommée internationale. Son vrai nom est Mohamed Moulessoul. Et il a choisi ce pseudonyme pour contourner la censure militaire lorsqu'il servait dans l'armée algérienne. Auteur prolifique, Khadra est célèbre pour ses romans engagés qui abordaient des thèmes aussi puissants que la violence, les conflits politiques et les drames humains. Parmi ses œuvres les plus connues, on retrouve L'attentat, Ce que le jour doit à la nuit, ou encore Les hirondelles de Kaboul. Mais avec Cœur d'amande, Khadra prend un tournant. Un temps différent, une ambiance plus douce, une histoire plus lumineuse. Un véritable changement de registre pour l'auteur. Et donc, qu'en est-il de Cœur d'amande? Ce roman nous plonge dans la vie de Nestor, un homme rejeté par ses parents à cause de son nanisme, qui a été élevé par sa grand-mère dans un quartier modeste de Montmartre. Nestor, malgré son handicap, est un homme courageux, positif et attachant, Il vit aux côtés de sa grand-mère, qui, bien que souffrante de la maladie d'Alzheimer, lui a transmis son amour des lettres et des beaux discours. C'est une ancienne professeure de français. Et Nestor lui doit tout. Ses connaissances, sa force et sa résilience face aux difficultés de la vie. Le roman explore des thèmes poignants comme l'handicap, l'abandon, la résilience et surtout l'amour familial qui triomphe face aux épreuves de la vie. Mais ce qui ressort du livre, c'est l'ambiance presque apaisante, un peu onirique, avec laquelle Khadra traite ce sujet. On suit Nestor dans son quotidien, dans un Montmartre vivant et coloré, où s'entremêlent entraide et solidarité. Loin des clichés touristiques, le quartier est dépeint avec authenticité, où chaque personnage, qu'il soit vendeur à la sauvette ou simple voisin, apporte une petite touche à cette fresque humaine. Commençons par les aspects que j'ai vraiment appréciés. D'abord, il faut souligner la beauté de l'écriture de Khadra dans ce livre. Le choix des mots est très soigné, avec un rythme apaisant qui nous transporte dans une petite bulle de Montmartre. J'ai beaucoup aimé le lien entre Nestor et sa grand-mère. Une relation intergénérationnelle, pleine de tendresse et d'émotion. On sent vraiment l'amour qui les unit. Et la manière dont Nestor, malgré toutes les embûches, reste résilient et positif face à la vie. C'est un personnage touchant, et sa relation avec sa grand-mère est le cœur du roman. C'est une belle leçon de vie. De plus, le cadre de Montmartre est dépeint avec beaucoup de réalisme et d'authenticité. Khadra parvient à capturer la vie d'un quartier populaire avec ses trafics, ses habitants, ses petites histoires, sans tomber dans le cliché. On est plongé dans une communauté humaine chaleureuse où chacun a sa place. Cette atmosphère donne vraiment du corps au roman. Mais bien sûr, il y a aussi des aspects qui m'ont un peu moins convaincu. Le premier point, c'est que malgré la beauté du texte, certains pourraient trouver que l'intrigue manque de tension dramatique. Khadra a opté pour un ton très doux, presque trop parfois. Certains thèmes, comme l'handicap, la maladie d'Alzheimer ou encore l'amitié, sont traités avec beaucoup de bienveillance. J'ai parfois eu l'impression que l'auteur n'osait pas aller plus loin dans l'exploration des difficultés de ces situations, ce qui peut laisser un goût de superficialité. En conclusion, c'est un roman lumineux, empreint d'une grande humanité, qui célèbre l'amour, la résilience et la force des liens familiaux. Khadra montre ici un visage plus tendre, plus apaisant, loin des récits sombres et intenses auxquels il nous avait habitués. Pour ceux qui recherchent une lecture réconfortante, plein d'espoir, ce livre est un vrai baume pour le cœur. Cependant, pour les lecteurs qui attendent une profondeur dramatique et des questionnements plus intenses, Cœur d'un monde pourrait sembler un peu trop lisse, voire naïf. Voilà mes chers amis ce que j'avais à vous dire sur Cœur d'un monde de Ismaïla Khadra. Un livre qui divisera certainement, mais qui, à mon avis, mérite d'être lu pour la beauté de son écriture et la tendresse qu'il dégage.
Il voulait être un grand scribouillard, mais s'est perdu dans les rayons bizarres. Au lieu de verser de l'encre sacrée, il vend des chapitres comme des cornflakes sucrés. Les phrases s'empilent sur ses étagères. Un poème pour 2 euros, c'est la guerre. Les rimes sont en promo, moitié prix. Et l'inspiration, c'est une loterie. Acheter, acheter, des beaux paragraphes en vrac. Des mots en conserve, c'est jackpot, c'est le tac-tac. Des phrases en promo, c'est la fête du livre. Un épicier des lettres, je fais tout pour vous séduire. Acheter, acheter, des chapitres par douzaine. Plus de poésie, juste des vers en galette pleine. Un roman avec un coupon, un petit rabais. Je suis l'épicier des mots, tout ça c'est du prêt-à-porter. Il voulait être un géant des lettres, mais le voilà vendeur de papier sans tête. Des best-sellers par kilo tout près, avec un petit ruban et un acheté. Des mots pour deux, des rimes à gogo. Pas trop de sens, mais hey, c'est rigolo. Les soleils sont rangés à côté des nouilles. La grande littérature s'enrouille. Acheter des beaux paragraphes en vrac. Des mots en conserve, c'est jackpot, c'est le tac-tac. Des phrases en promo, c'est la fête du livre. Un épicier des lettres, je fais tout pour vous séduire. Acheter des chapitres par douzaines. Plus de poésie, juste des vers en galette pleine. Un roman avec un coupon, un petit rabais. Je suis l'épicier des mots, tout ça c'est du prêt-à-porter. Un sonnet, un haïku, deux pour le prix d'un. Et avec sa madame, une tranche de refrain. Il découpe ses pages, il fait des colis. Il vend ses bouquins comme des brocolis. Les mots, c'est devenu du gros marketing. Et l'écriture, un vieux truc qui traîne dans le dressing. Acheter mes romans, tout fait, tout cuit. Et pour les idées, c'est option au prix de la nuit. Acheter mes beaux paragraphes en vrac. Des mots en conserve, c'est le jackpot, c'est le tac-tac. Des phrases en promo, c'est la fête du livre. Un épicier des lettres, je fais tout pour vous séduire. Acheter des chapitres par douzaine. Plus de poésie, juste des vers en galette pleine. Un roman avec un coupon, un petit rabais. Je suis l'épicier des mots, tout ça c'est du prêt-à-porter. Acheter mes beaux paragraphes en vrac. Des mots en conserve, c'est jackpot, c'est le tac-tac. Des phrases en promo, c'est la fête du livre. Un épicier des lettres, je fais tout pour vous séduire. Acheter des chapitres par douzaine. Plus de poésie, juste des vers en galette pleine. Un roman avec un coupon, un petit rabais. Je suis l'épicier des mots, tout ça c'est du prêt-à-porter. Et voilà qui scande. Poésie en solde, prose congelée. Le talent c'est trop cher, mieux vaut tout étiqueter. Acheter. Le poète est parti. Y'a plus qu'un vendeur d'idées sous vide ici.
Chers amis, aujourd'hui, je vous invite à plonger dans trois œuvres marquantes, trois histoires bouleversantes, signées par un maître de la littérature contemporaine, Yasmine Akhdar. Ces récits sont plus qu'une simple lecture. Ils sont une exploration brute, intime et parfois douloureuse des profondeurs de l'âme humaine. À travers ce que le jour doit à la nuit, Kuzinka et l'attentat, Khadra nous emporte dans des univers où l'identité se mêle à la trahison, où la solitude se transforme en folie, et où la quête de vérité devient une lutte acharnée contre le désespoir. Ces romans, chacun à leur manière, sont des fresques humaines captivantes qui nous oblige à regarder de près la complexité des relations humaines, des conflits intérieurs et des fractures du monde contemporain. Ces histoires portées par des personnages qui se battent contre leur propre destin résonnent profondément avec les luttes et les dilemmes auxquels nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre. Yasmine Akhdar, avec son écriture précise et pleine de sensibilité, nous offre ici des récits universels qui touchent à ce qu'il y a de plus fragile en chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ces trois romans, non pas seulement pour en discuter, mais pour en comprendre toute la portée émotionnelle et philosophique. Pourquoi avoir choisi ces trois romans, justement? En particulier parmi l'ensemble de l'œuvre prolifique de Yasmine Akhdar. Ce que le jour doit à la nuit, Kuzinka et l'attentat, incarnent à eux seuls l'essence même de l'écriture de Khadra. Une exploration intense des souffrances humaines, des dilemmes moraux et des quêtes identitaires dans des contextes de profonde fracture. Ces trois romans, bien qu'ancrés dans des histoires et des contextes différents, révèlent avec une puissance inégalée la capacité de Khadra à capturer la complexité des émotions humaines. D'un côté, ce que le jour doit à la nuit se présente comme une fresque historique, une réflexion nostalgique sur l'Algérie d'avant l'indépendance et sur l'identité déchirée d'un homme pris entre deux mondes. C'est un roman qui pose la question fondamentale de l'appartenance. À quel point peut-on aimer et faire partie d'une terre tout en étant étranger à ses propres origines? De l'autre côté, Kuzinka se distingue par son atmosphère intimiste et oppressante. Ici, Khadra réduit le cadre à une enfance brisée, négligée, où la solitude devient une force destructrice. Ce roman représente une plongée dans l'âme humaine à son niveau le plus vulnérable et éclaire la manière dont un manque d'amour peut transformer une personne. Il montre aussi la maîtrise de Khadra à explorer des thématiques plus psychologiques, loin des grands drames politiques. Enfin, avec l'attentat, Khadra aborde l'un des thèmes les plus brûlants et complexes de notre époque, le conflit israélo-palestinien, la radicalisation et les blessures que ce conflit impose aux individus. À travers l'histoire d'Emin, un homme dévasté par la trahison de sa femme, l'auteur nous pousse à interroger les motivations profondes qui mènent aux extrêmes et à remettre en question nos certitudes sur l'amour, la loyauté et l'identité dans un monde déchiré par la violence. Alors, ce qui relie ces trois romans, c'est la capacité de Yasmine Akhdar à explorer l'âme humaine dans toute sa complexité. Que ce ce soit à travers la quête identitaire de Younes dans ce que le jour doit à la nuit, la solitude oppressante du narrateur de Kuzinka ou la douleur de la trahison vécue par Amin dans l'attentat, Khadra nous offre un regard profond et nuancé sur les fragilités humaines. Ces trois œuvres, bien que très différentes en termes de contexte et de narration, partagent un fil conducteur, la quête de vérité et de sens dans un monde où les certitudes s'effondrent. Younes, le narrateur de Kuzinka, et Amin sont tous confrontés à des réalités qui bouleversent leur vision du monde. Et chacun à sa manière cherche à recoller les morceaux d'une existence brisée. Khadra excelle à décrire des personnages tiraillés entre deux mondes, que ce soit les tensions identitaires, familiales ou politiques, il nous rappelle que malgré les souffrances, les trahisons et les épreuves, l'humanité réside dans cette quête perpétuelle de compréhension, d'amour et de réconciliation avec soi-même et avec les autres. Mes chers amis, Yasmina Khadra, à travers ce que le jour doit à la nuit, Kuzinka et l'attentat, nous invite à réfléchir sur nos propres dilemmes, nos failles et nos quêtes intérieures. Ces romans sont autant de fenêtres ouvertes sur des âmes en souffrance, mais aussi des récits d'espoir, de résilience et de rédemption. Je vous invite alors à lire ou à relire, si vous avez l'occasion de le faire, ces trois ouvrages qui marquent profondément par leur humanité et leur profondeur. Merci de m'avoir écouté.
L'encre dans les veines, des mots taillés comme des lames fines. Un génie qui brillait dans l'ombre, mais les ombres l'ont fait tomber. Ils l'ont vu, ils l'ont jalousé, ils l'ont pris pour un rival à briser. Dans ce panier à crabes, il est tombé entre les griffes des puissants bien rangés. Les portes se ferment, les cercles sont clos, même les plus grands n'ouvrent plus leurs mots. Un génie enfermé dans un monde trop froid, où les jaloux rient et l'étouffe sans voix. Édite rageant, leurs sourires sont des pièges, des portes closes, des clés que l'on protège. Ils frappent, mais rien ne répond, un génie seul face à leur plafond. Ces mots volaient, ils avaient des ailes, mais ils les ont coupées avec leurs ficelles. Ils tissent des réseaux comme des étoiles d'araignée où les talents se perdent piégés. Ils se serrent la main, mais pas pour toi dans leur cercle, il n'y a pas de place pour ta voix. Ils t'observent, te jugent de loin et te ferment les portes sans même un soin. Les portes se ferment, les cercles sont clos, même les plus grands n'ouvrent plus leurs mots. Un génie enfermé dans un monde trop froid, où les jaloux rient et l'étouffe sans voix. Édite rageant, leurs sourires sont des pièges, des portes closes, des clés que l'on protège. Ils frappent, mais rien ne répond, un génie seul face à leur plafond. Ils murmurent dans le noir des promesses vides, des poignées de mains qui te laissent vide. Des cercles infranchissables, ils se resserrent. Le génie étouffe, il manque d'air. Les jaloux t'observent, te montrent du doigt, mais jamais, jamais ils ne tendent le bras. Ils te regardent briller de loin, puis referment leur cercle comme un écran. Même les plus grands n'ouvrent plus leurs mots. Un génie enfermé dans un monde trop froid, où les jaloux rient et l'étouffe sans voix. Édite rageant, leurs sourires sont des pièges, des portes closes, des clés que l'on protège. Ils frappent, mais rien ne répond, un génie seul face à leur plafond. Ils murmurent dans le noir des promesses vides, des poignées de mains qui te laissent vide. Des cercles infranchissables, ils se resserrent. Le génie étouffe, il manque d'air. Les jaloux t'observent, te montrent du doigt, mais jamais, jamais ils ne tendent le bras. Ils te regardent briller de loin, puis referment leur cercle comme un écran. Dans ce panier à crabes, ils se débattent, mais leurs griffes les tirent vers le bas. Les portes sont closes, les regards sont glacés, lui le génie est laissé de côté. Il écrira encore seul dans son coin, mais les cercles ne tendront jamais la main.
Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui je vous propose un voyage poétique dans les profondeurs de l'âme humaine, au cœur des mots de Kamel Bouneb. Ce poète originaire de Sétif en Algérie nous ouvre les portes d'un univers à la fois intense et subtil, où les émotions s'entrelacent avec la richesse de la langue. Dans son recueil, Passion crépusculaire, chaque poème devient un espace de réflexion, une invitation à explorer les sentiments que nous portons en nous, mais que nous n'osons pas toujours nommer. À travers ses vers, Kamel Bouneb explore les contrastes fondamentaux de la vie. Le jour et la nuit, le silence et le bruit, la présence et l'absence. Dans ses mots, la mélancolie se mêle à la quête de sens, offrant au lecteur une expérience où l'introspection est de mise. Ses poèmes évoquent une lumière douce, presque crépusculaire. Cette lumière qui précède la nuit et éclaire les derniers instants du jour, et qui en même temps éclaire nos pensées les plus intimes. Ce recueil se distingue par une créativité sans limite, où l'auteur utilise des jeux de mots inventifs pour donner vie à des émotions complexes. Dans Passion crépusculaire, chaque mot, chaque sonorité est choisi pour créer un rythme envoûtant, une musique intérieure qui vient toucher quelque chose de profond en chacun de nous. Bouneb nous offre des expressions comme « existentielle » ou « amnésique » qui capturent en un mot des mondes d'émotions. Ce choix de langage riche en inventions laisse entrevoir une sensibilité poétique rare qui pousse le lecteur à regarder au-delà des apparences. Les poèmes de Kamel Bouneb ne se contentent pas d'exprimer des sentiments, ils les incarnent. Dans ce recueil, l'amour, le regret, le désir et la nostalgie sont palpables, vivants, parfois sombres, souvent contemplatifs. Ces vers s'adressent à ceux qui cherchent à comprendre la profondeur des liens humains, à percer le mystère de l'âme. Le silence omniprésent dans son écriture n'est jamais vide. Il est peuplé de non-dits, d'échos d'émotions passées, d'une paix mélancolique qui enveloppe les mots et laisse place à la réflexion. Destiné à un public sensible aux explorations linguistiques et à la profondeur émotionnelle, le recueil de Kamel Bouneb est un voyage littéraire singulier et mémorable. Pour ceux qui apprécient une poésie riche et audacieuse, ce recueil est une invitation à se laisser emporter par les mots, à explorer un monde où chaque poème devient une expérience unique. Avec Passion crépusculaire, Kamel Bouneb nous invite à une introspection sincère, un retour vers notre essence, là où les mots se font messagers de vérités cachées. À travers une maîtrise sonore et rythmique, il nous propose une lecture où chaque vers est une note, chaque poème une mélodie, qui résonne longtemps après que le livre est refermé. Cette poésie, en jouant sur les répétitions et les sonorités, devient presque musicale, comme si chaque mot vibrait de sa propre vie. Existentiel. Je suis le être de forêt, au bois, son eau dormant, hurlant au son des bois muets. Au fond des mousses, mon sable détend. Je suis l'être doux, félin, prince des chats armants, charmant, de bel air dans du néant, dont dit son titre du partition sans voix. Je suis l'être, parvis autour, divine arme en extinction lente de foi, heureuse enquête qui s'entête et se croit, à titre de nouvelles ailes, aux airs volants. Je suis l'être, massif, missif de l'âme de nobles sentiments, de nos muses aux voix en timbre cassant, cheveux sur langue tirée de pattes de viennois. Ce poème extrait du recueil incarne parfaitement l'essence du travail de Kamel Bouneb. Une poésie de l'entre-deux, entre ciel et terre, matière et esprit. Par ses vers, l'auteur nous entraîne dans un univers où les mots se déploient en métaphores captivantes, laissant les lecteurs suspendus à des images audacieuses inoubliables. Merci chères auditrices, chers auditeurs de m'avoir accompagné dans cette découverte. Puissiez-vous vous laisser emporter vous aussi par cette passion crépusculaire et trouver dans ces mots des échos de votre propre histoire. Et pour finir en beauté, mon groupe Les Belles Sons a préparé une surprise de taille. Eh bien oui, pour moi, pour Kamel Bouneb et surtout pour vous qui nous écoutez. Voici Existentiel, mise en chanson, rien que pour vous.
traître de forêt au bois sans note dormant. Hurlant au son des bois muets au fond des mousses, maussade des temps. Je suis l'être doux félin, prince des charmants, charmant de bel air dans du néant. Dandy sans titre d'une partition sans voix, je suis l'être parvis autour divine arme en extinction lente de foi. Heureuse enquête qui s'entête et se croit, attire de nouvelles ailes aux airs volants. Je suis l'être massive, missive de l'âme, de nobles sentiments, de nos muses aux voix, en timbre cassant, cheveux sur l'âme étirés de pattes viennois. Charmant, armant charmant, de bel air dans du néant. Dandy sans titre, d'une partition sans voix. Je suis l'être, parvis autour, divine arme en extinction lente de foi. Heureuse enquête qui s'entête et se croit, attire de nouvelles ailes aux airs volants. Je suis l'être massive, missive de l'âme, de nobles sentiments, de nos muses aux voix en timbre cassant, cheveux sur langue tirée de pattes viennois.
Quoi après le gros best-seller, un livre qui brille, peu importe le flair. Le succès, c'est tout ce qui compte, le reste, juste des chiffres qui montent. Il écrase les petits sans même un regard, pas de pitié, c'est le grand bazar. Le gâteau du livre, c'est pour les grands, ils s'en partagent, chaque morceau gourmand. Donnez-moi du succès, de l'or en barre, peu importe le texte, tant que ça se vend bien, je prends ma part. Les petits éditeurs écrasés comme des mouches, les gros mangent le gâteau sans même une touche. Donnez-moi des prix, entre nous c'est signé, les couvertures brillent et tout est arrangé. Peu importe l'art, c'est l'argent qui nous quitte, dans ce monde des grands, y a pas de subtilité, que du fric solide. Les petites maisons, c'est sympa, mais non, ici on parle de gros jetons. Pas de place pour les novatations, on prend ce qui marche même sans conviction. Les prix littéraires, entre nous, c'est déjà scellé. Un petit coup de main ici, un clin d'œil bien placé. Et voilà, que le succès défile, peu importe le texte, c'est commercial et docile. Donnez-moi du succès, de l'or en barre, peu importe le texte, tant que ça se vend bien, je prends ma part. Les petits éditeurs écrasés comme des mouches, les gros mangent le gâteau sans même une touche. Donnez-moi des prix, entre nous, c'est signé. Les couvertures brillent et tout est arrangé. Peu importe l'art, c'est l'argent qui nous guide. Dans ce monde des grands, y'a pas de subtilité, que du fric solide. Un prix ici, un prix là-bas, on se fait des clins d'œil, on se repartit les choix. Un petit au tapis, un autre à la trappe. Bienvenue chez les gros, où tout est sous une nappe. On écrase, on bouscule, on mange tout. Et pour l'art, bah c'est un peu flou. Tant que ça se vend, on roule sur l'or. Les couvertures brillent, c'est nous qui faisons le sort. Donnez-moi du succès, de l'or en barre. Peu importe le texte, tant que ça sent bien, je prends ma part. Les petits éditeurs écrasés comme des mouches, les gros mangent le gâteau sans même une touche. Donnez-moi des prix, entre nous c'est signé. Les couvertures brillent et tout est arrangé. Peu importe l'art, c'est l'argent qui nous guide. Dans ce monde des grands, y'a pas de subtilité, que du fric solide. Et voilà qui se partage le butin. Un gâteau littéraire, bien gras, bien malin. Les petits éditeurs, c'est fini pour eux. Les gros ont tout pris et c'est bien comme ça pour eux. Succès, succès, succès à vendre. Peu importe le texte, tant que ça rapporte en nombre.
Thank you.
Et voilà qu'ils se partagent le butin, un gâteau littéraire, bien gras, bien malin. Les petits éditeurs, c'est fini pour eux, les gros ont tout pris, et c'est bien comme ça pour eux. Succès, succès, succès à vendre, peu importe le texte, tant ça rapporte en nombre. Et voilà qu'ils se partagent le butin, un gâteau littéraire, bien gras, bien malin. Les petits éditeurs, c'est fini pour eux, les gros ont tout pris, et c'est bien comme ça pour eux. Succès, succès, succès à vendre, peu importe le texte, tant ça rapporte en nombre.
Bonjour Stéphane et merci d'être avec nous aujourd'hui dans Évasion des mots.
Bonjour Sophie.
Alors ton livre, Picot roman d'abord, est un recueil de nouvelles courtes avec des thèmes très variés allant de la fiction pure à la critique sociale. Alors ce qui frappe dès le début, c'est la puissance des histoires malgré leur brièveté. Aujourd'hui, on aimerait en savoir plus sur ton processus d'écriture, tes inspirations et ce que tu souhaites que les lecteurs retiennent de ces récits. Alors ma première question, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire Picot roman? Comment as-tu décidé de jongler entre des histoires aussi courtes mais percutantes?
Alors oui, bah, courte sûre, c'est sûr, percutante, merci, mais je, c'est pas à moi d'en juger. En fait, oui, j'aime bien les chutes. C'était le principe de la chute sur tout ça, et puis l'idée de à travers quelque chose d'assez court, un texte très concentré, permettre une imagination et se faire une propre idée de toute une histoire derrière ça. C'était ça un peu l'idée. Et puis en fait, moi, je me suis inspiré des nano-fictions de Patrick Beau que j'avais lu un peu avant, et aussi les micro-fictions. Alors là, par contre, autant Patrick Beau, c'est un livre assez court, mais les micro-fictions de Régis Geoffrey, c'est énorme, c'est... ben c'était un peu ça qui m'avait donné l'idée d'écrire de mon côté, mais en fait ça, c'était presque une espèce de blague au départ. C'est pendant l'été du confinement, après le confinement et avant le second confinement, on était assez limité dans nos déplacements et donc on avait pris des vacances pas très loin et c'était une période encore où on pouvait pas, je crois, trop sortir le soir et autres. Et donc, bien le soir, je m'amusais à écrire deux petites nouvelles comme ça, voilà, que je publiais sur ma page privée Facebook pour les amis en fait, pour l'entourage. Et puis, c'est à un moment, un jour, j'avais tardé un peu à les publier. Et dans la nuit, je reçois des messages de deux amis qui me disent « Et alors, notre histoire du soir ?» Et donc, ça arrive. Et donc, c'est voilà.
Ça fait enchaîner de cette manière. Justement, dans chaque histoire, il y a un ton très différent, parfois sombre, parfois ironique. Peux-tu nous parler de ton approche dans l'écriture de ces nouvelles ?
Ah oui, oui. Alors, l'ironie, oui, sûrement. Sombre un peu aussi, parce que je crois que tout dans notre société n'est pas clair et donc sombre, voilà. Après il y a aussi de l'ironie, de l'humour, enfin je pense parce que comme je dis dans la dernière, l'idée aussi c'est de me faire marrer moi-même de mes propres conneries, donc mes propres bêtises, donc voilà.
Dans Curieuse rencontre, l'histoire est intrigante et touche à la frontière du fantastique. Pourquoi ce choix d'une narration aussi déstabilisante?
Ah oui, bah en fait, c'est l'idée que moi, je pense que j'aurais aimé, j'en sais rien, mais ça aurait été drôle de me voir arriver, quand j'étais enfant, de me voir arriver à l'âge d'aujourd'hui, et puis que ce vieil homme-là vienne vers moi en me disant « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Voilà, parce que en fait, tout s'est bien passé, je crois.
Ton écriture semble parfois très crue, notamment dans des nouvelles comme l'histoire d'une secte. Pourquoi avoir choisi un ton aussi direct pour certaines histoires?
Ah oui, alors ça, c'est une histoire mécréante, vraiment, parce que je m'attaque là à la foi chrétienne, en fait, catholique, à travers la... Non, ça m'a amusé de me dire, et si Jésus-Christ, dont a priori il n'y a aucune véritable preuve scientifique de l'existence, en tout cas dans la science historique, même s'il y a quelques éléments comme ça, mais c'est surtout une histoire qu'on réécrit longtemps après. Donc voilà, il y a toujours ce doute. Mais moi, c'était l'idée de, mais oui, pourquoi pas. Mais dans ce cas, pourquoi pas le placer dans la situation d'être une espèce d'escroc, en fait, de gourou qui alors qu'il était caractéristique des gourous encore actuels, c'est-à-dire avec un charisme, avec des belles paroles, et puis une espèce d'engouement à une période de l'histoire justement où Rome est en difficulté, les difficultés économiques font un peu comme aujourd'hui. Les difficultés économiques sont là, les inégalités, des problèmes de guerre aussi, et donc les gens s'angoissent, et quand les gens sont angoissés, ils sont dans les croyances. Donc je me suis dit, voilà quelqu'un qui aurait senti l'air du temps et qui aurait su comment faire pour persuader les gens de pouvoir surnaturel, des choses comme ça, avec un côté prestidigitateur qui lui aurait aidé là-dedans, et puis créant cet engouement, et puis allant jusqu'à aujourd'hui encore, où c'était c'est de l'ironie. Hein,
peux-tu nous parler de l'organisation du livre, et comment tu as sélectionné ces histoires très variées, allant du comique à l'absurde?
Oui, j'ai repris les 100. Voilà, et je me suis arrêté à 100 justement. Le dernier jour, je dis c'est la dernière. Et puis un copain me dit mais ça a aucun sens. 100, pourquoi 100? 101, c'est plus joli. Ou 100... Alors je lui avais dit je te ferai ta 101e rien pour toi.
On ressent souvent une critique de la société moderne dans des histoires, par exemple dans Pandémie ou Bon pour les affaires. Est-ce que tu as voulu faire passer un message spécifique à travers ce recueil?
En fait, mon métier qui est magistrat judiciaire m'offre cette chance extraordinaire d'avoir un point de vue, un point d'observation assez exceptionnel sur ce qui se passe dans la société. Je pense que les magistrats judiciaires voient ce qui se passe vraiment lorsqu'on décide de telle politique économique, telle politique sociale ou tel discours qui est véhiculé. Nous, on voit ce que ça fait sur les gens, très, très assez vite en fait. Donc c'est vraiment un point. Et ce qui se passe, c'est pas forcément tendre pour la population, pour les gens aussi en difficulté. Je trouve que notre société est assez violente malgré tout. Alors c'est pas la plus violente sans doute, mais malgré tout, enfin, elle reste violente. Et donc nous on le voit assez vite. Et donc ça m'inspire aussi dans le fait de pouvoir pas dénoncer, hein, c'est pas du tout ça, mais de dire ça c'est pas terrible quoi. Ouais. Alors, bon pour les affaires. Pandémie, puisque tu la cites, Pandémie, c'est juste parce que l'expression belle journée, voilà, c'est je crois que je le dis que c'est un vers de langue, mais c'est ça, à partir du moment où quelques-uns ont commencé à l'utiliser, ça s'est répandu et maintenant il y a presque pas un mail ou un message qui ne termine par belle journée ou bel après-midi et puis je dis mais ça c'est non moi je préfère qu'on me souhaite une bonne journée parce que ce qui est beau n'est pas forcément bon et ce que je dis dans l'histoire c'est justement les uniformes des SS étaient beaux puisque c'était dessiné par Hugo Boss mais c'était pas bon pour la plupart des gens, en tout cas. Pas pour les juifs, pas pour les communistes, pas pour les malades mentaux, les tziganes, c'était pas bon pour eux en fait.
Alors, le format court permet de dire beaucoup avec peu de mots. Quelle est la principale difficulté pour toi lorsque tu écris ce genre de nouvelles?
Ça n'a pas été difficile, curieusement en fait, c'est venu assez vite. Alors si ça a été difficile d'en faire deux par jour, et donc j'ai dû parfois convoquer, d'ailleurs dans la dernière je le dis, j'ai dû parfois convoquer des vieilles idées, notamment des chansons que j'avais écrites et que j'ai pas repris telles quelles, hein, mais en les remodifiant, mais j'ai dû m'inspirer un peu de choses comme ça, aussi de certaines affaires judiciaires, il y a deux, trois affaires deux, trois picoromans qui font référence à des affaires. Alors, bien sûr, c'est inidentifiable en l'état, mais ça s'en inspire, oui. Ouais.
Alors, certains récits, comme la disparition des vieux métiers, semblent toucher à des thèmes plus philosophiques. Comment l'aspect réflexif est-il intégré dans ton écriture?
Alors, moi, la philosophie, j'adore. Voilà, j'ai beaucoup lu de philosophie. Moi, maintenant, un peu, je lis plus des essais ou ou de la sociologie ou de l'histoire, mais vraiment quand j'étais étudiant et au début de ma carrière, j'ai beaucoup lu de la philosophie, alors pas beaucoup d'auteurs. J'avais mes auteurs préférés et que j'ai beaucoup travaillé. Voilà, donc j'ai préféré maîtriser la pensée de 4 ou 5 plutôt que de papillonner de droite à gauche. mais voilà, donc la philosophie, oui. La disparition des vieux métiers, bah c'est un peu voilà, sur une espèce de réflexion comme ça. Et puis, il y a un côté, je crois que c'est dans cette nouvelle-là où j'invente l'idée d'un réparateur d'horloge solaire, hein, voilà, c'est ça, avec Trump qui pique une colère en disant, puisqu'il est plongé dans le noir de fait, puisque ouais. Ça s'est arrêté, je crois, en plein jour en Inde, donc les États-Unis sont plongés dans le noir et Trump s'agace et menace de radier l'Inde avec ses bombes nucléaires s'il ne remédie pas tout de suite à cette difficulté.
Ouais. Alors, tu mentionnes dans la préface de ce livre aussi entre fiction pure et biographie romancée. Oui. Y a-t-il une part autobiographique dans certains de
ces livres ? Ah oui, en tout cas, le fait d'avoir ce regard un peu sur certains détails ou certains événements, donc c'est vraiment, voilà, il y a un peu de moi là-dedans, bien sûr. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, certaines affaires que j'ai pu traiter, qui m'ont inspiré, certains épisodes de ma vie aussi. Alors c'est pas tel quel, bien sûr, hein, mais c'est ouais. C'est voilà, romancé ou c'est travesti avec des billets de côté, des choses comme ça.
D'accord. Pour finir, alors comment aimerais-tu que les lecteurs réagissent à Picot Roman? Y a-t-il un thème ou un message que tu aimerais qu'ils retiennent particulièrement?
Non, qu'ils s'amusent aussi avant tout, comme moi j'ai pu m'amuser à les écrire.
Ils prennent du plaisir.
Voilà, c'est ça plutôt. Voilà, si on a quelques-uns à qui ça fait plaisir, bah tant mieux, c'est gagné.
En plus d'être écrivain, tu es aussi impliqué dans la musique, Stéphane. Peux-tu nous parler de cette collaboration?
Ah oui, alors la musique, je pense être beaucoup plus musicien qu'autre chose dans ma vie personnelle. C'est une obsession presque, la musique, pour moi depuis tout le temps. Voilà, depuis aussi longtemps que remontent mes souvenirs, écouter et en jouer, parce que dès que j'ai pu avoir un instrument entre les mains, j'ai commencé à composer, à écrire mes chansons, mes musiques maintenant, parce que je fais plus que de l'instrumental. Mais voilà, c'est vraiment alors le côté mélancolique, l'électro, pas parce que ça facilite. Moi, je suis pas un grand technicien, donc la musique électronique permet d'accéder facilement à la création, je trouve. Après, c'est parce qu'aussi les sons, moi, me fascinent, les synthétiseurs, les sampleurs et autres. C'est fascinant de travailler cette matière-là. La mélancolie, c'est parce que ce sont des musiques que j'écoute plus, des musiques plus tristes, plus mélancolique en général, voilà. Donc ça se reflète dans mes créations aussi un peu.
Comment trouves-tu cet équilibre entre l'énergie festive et le blues dans ta création musicale? Est-ce similaire à ton approche dans l'écriture de Picot Roman?
Oui, sans doute. Ouais, je pense. Tu dois avoir raison. Je pense, ouais, que c'est un peu lié. Voilà. Malgré tout, faut continuer à danser. Justement, j'ai l'idée d'un clip actuellement où ce serait deux danseurs qui sont dans un salon, un couple dans un salon et qui pleurent et il y en a un qui, à chaque fois à tour de rôle, il y en a un qui s'effondre, qui tombe à terre de pleurs et l'autre qui, malgré tout, lui aussi en pleure, le relève. Donc, malgré tout, faut continuer dans le sens de la vie et de la fête, même si elle peut être triste parfois. Il y a un titre que j'adore de Trisomie 21, justement, qui s'appelle un vieux groupe des années 80, qui s'appelait la fête triste. Et cette musique, leur musique reflétait bien aussi le concept, je trouve.
Ça fait. Mmh. Ouais. Où est-ce qu'on peut se procurer tes morceaux de musique?
Alors, Mécanique
Mozart. S'il y a des albums.
Oui, Mécanique Mozart et Blue Seas, on peut entendre leur album sur les plateformes. Donc, Mécanique Mozart, c'est L10 qui est sur les plateformes et Blue Seas, c'est Micro Preset aussi. donc des albums entiers. Après, on peut l'avoir aussi en commandant sur Bandcamp. Nous avons des Bandcamp et le L10 de Mechanic Mozart est aussi sur le Bandcamp de Impersonal Freedom, donc le label de Thomas Pauly que Thomas Pauly, j'admire beaucoup sa musique et aussi ses productions, son travail d'ingénieur du son et donc c'est comme ça que je l'ai contacté et il m'héberge en fait, c'est une espèce d'hébergement et donc moi j'en suis très très content en fait de faire partie un peu de loin mais un peu partie de l'équipe.
Bien, merci beaucoup Stéphane pour ce bel échange. Picoroman est un recueil qui touche de nombreux thèmes, parfois drôles, parfois profonds, mais toujours percutants. On en ressort avec des réflexions, des émotions et une envie de prolonger dans cet univers, de ces univers variés. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le découvrir, je vous encourage vivement à le lire. Stéphane, encore merci pour cette belle discussion et on te souhaite tout le succès avec ce livre et tes futurs projets.
Ben merci beaucoup.
Des portes, sans jamais vraiment savoir où ils mènent. Les signes, les symboles, sont-ils des vérités ou des mirages? Peut-être que ce que tu cherches n'existe pas vraiment. Ou alors, c'est toi qui n'as jamais su comment chercher. Les pages sont des voiles que tu soulèves une à une. Mais que cherches-tu derrière? Est-ce une vérité ou juste un écho de tes propres pensées? Le mystère ne se résout pas, il se vit. Tu avances, tu recules, tu te perds, mais te perds-tu vraiment? Parfois c'est dans les garants que se trouve la destination. Les réponses ne se trouvent pas toujours là où tu crois les chercher. Elles se cachent, elles attendent. Mais attendent-elles d'être trouvées ou de te perdre davantage? Chaque mot est une promesse fragile, presque imperceptible, qui te chuchote à l'oreille sans jamais s'imposer. Tu crois comprendre, mais la compréhension n'est qu'un voile sur un autre voile. Et dans ce jeu d'apparence, ce n'est pas ce que tu sais qui importe, mais ce que tu ne sauras jamais. Est-ce une quête ou une simple illusion de mouvement? Cherches-tu un sens ou est-ce le sens qui te cherche? Ce que tu tiens dans tes mains n'est qu'un reflet. Mais les reflets sont trompeurs. Ils te montrent toujours ce que tu veux voir. Et si ce que tu attends n'était pas dans les lits, mais dans les silences entrés, les espaces vides sont pleins de sens. Si tu sais les écouter, ce n'est pas toujours ce qui est dit qui compte, mais ce qui est laissé de côté. Peut-être que la vraie sagesse réside dans l'abandon, dans le fait de cesser de vouloir tout comprendre, tout saisir, car ce qui se révèle à toi n'est jamais tout à fait complet. Il te manque toujours quelque chose, mais peut-être est-ce ce manque qui te rend plus humain.
Dans ta tête, car les mots ne sont jamais là où tu les attends.
Tu cherches à
dire la joie. Et les mots se tordent, se moquent, se font mystérieux. Ils te donnent autre chose, une ombre, un éclat fugace de lumière. Mais jamais la vérité que tu croyais saisir. Et quand tu veux exprimer la tristesse, ils se font légers, trop légers.
Ils flottent insaisissables et te laissent avec un vide. Un vide où les larmes se taisent, où les sentiments se cachent derrière des phrases trop faibles. Les mots,
ils dansent, ils tournoient autour de toi, ils t'effleurent. Ils ne restent jamais assez longtemps pour que tu les comprennes. Ils apparaissent et disparaissent, comme des ombres sur un mur que tu ne peux jamais atteindre. Ils jouent, et toi tu les poursuis. Tu crois pouvoir les piller à ta volonté et façonner pour qu'ils disent ce que tu ressens. Mais les mots n'obéissent pas, ils se mêlent, ils se transforment. Ils t'échappent toujours au dernier moment. Un jour ils te montrent un chemin, le lendemain ils te perdent dans un labyrinthe sans fin. Et toi, tu erres à la recherche du mot parfait, celui qui pourrait tout dire, tout exprimer. Et ce mot-là, ils le gardent pour eux, un secret qu'ils ne révèlent jamais. Les mots. Les mots aiment se cacher dans les silences, dans les soupirs entre deux phrases. Ces moments où tu penses qu'il n'y a plus rien à dire, ils sont là toujours et ils te regardent de loin. Ils te laissent te débattre avec les sentiments, te laissent croire que tu peux tout dire. Mais ils savent que ce n'est pas toi qui les possèdes, mais eux qui te possèdent.
Un jour ils te donnent la joie, le lendemain ils te plongent dans la mélancolie. Ils te font pleurer avec un seul mot, puis te font rire avec une phrase que tu n'attendais pas. Ils jouent avec ton cœur autant qu'avec ta plume. Et toi, tu continues, tu essaies de suivre leur danse, de comprendre leur logique. Mais plus tu les cherches, plus ils t'échappent. Les mots sont libres.
Et voilà, notre voyage littéraire touche à sa fin. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous sur Évasion des mots, ici sur CLAB 88.4 FM. J'espère que les œuvres de Yasmina Khadra, Kamel Bouneb et Stéphane Cantero vous ont donné envie d'explorer de nouveaux horizons littéraires et de plonger dans des histoires aussi riches qu'intenses. Un grand merci à Hussein pour la technique, à Lilia pour la rédaction et aussi au groupe Les Belles Sondes pour les morceaux chantés, joués et spécialement choisis pour nous accompagner aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle escapade littéraire, toujours pleine d'émotions et de découvertes. En attendant, poursuivez l'aventure en lisant et partageant ces livres autour de vous. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt dans Évasion des mots.
Chaque feuille s'envole et va s'en vers l'éternité. Murmure de mots.